Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au second webinaire pour parler des résultats préliminaires de l'équipe de révision sur la concurrence, la confiance et choix du consommateur. Je m'appelle Jonathan Zock. Je suis à la tête de cette équipe de révision. Ça fait partie des affirmations d'engagement et qui font maintenant partie donc des statuts à la suite de la transition IANA. Donc, permettez-moi donc de changer quelque peu les transparents. Donc, on nous a demandé de faire l'évaluation du nouveau programme des GTLD et de sa promotion de la concurrence, de la confiance et des choix du consommateur. On nous a demandé également d'évaluer l'efficacité du dossier de candidature et des processus d'évaluation, ainsi que l'évaluation de l'efficacité des sauvegardes. Donc, notre objectif, c'était de se baser sur des données pour faire cette évaluation du nouveau programme des GTLD et d'informer les politiques en rapport avec les nouveaux GTLD. Donc, nos conclusions initiales, c'est qu'il y a une amélioration de la concurrence, confiance et choix du consommateur. Il y a une bonne adoption de sauvegarde. Il y a eu une collecte de données qui est absolument nécessaire pour identifier toute conséquence négative significative. Donc, il y a plusieurs études qui ont été effectuées dans ce domaine. Et je suis très heureux que vous nous écoutiez cet après-midi durant donc cette séance, nous pourrons répondre à vos questions, vous pourrez poster des commentaires également. Il y a une période de commentaires publics qui existe et qui se clôturera au 27 avril 2016. Vous avez un lien email qui est sur la diapo à l'écran. Donc j'espère que ce webinaire vous sera utile pour mieux comprendre ce qui est en jeu. Donc, l'expansion du marché DNS a démontré un choix accru pour les consommateurs dans le niveau de la confiance et de la concurrence, et nous avons réussi à limiter les problèmes de confiance, néanmoins quelques avertissements. Le nouveau programme des GTLD doit être vu seulement comme un bon départ. Il y a un bon nombre de problèmes de politique qui doivent être adressés avant d'étendre encore plus le GTLD. Donc ça prend 3 ans à peu près pour qu'un GTLD arrive à son rythme de croisière, dirais-je. Donc il y a différents problèmes à régler avant d'avoir encore une nouvelle série de GTLD. Et pour tous les cas, on a besoin de plus de données. Les données sont limitées, ne sont pas complètes, et cela ne facilite pas une analyse totale. Donc, voilà, une partie de notre recommandation serait d'avoir plus de données et des données de meilleure qualité. Nous avons des recommandations préliminaires, un calendrier également. Nous avons les conditions, les prérequis, les conditions préalables tout d'abord. Ce qui doit être fait avant de lancer d'autres procédures. Donc, quel que soit le temps que ça va prendre, nous disons que c'est absolument essentiel, ces 18 recommandations doivent être mises en place avant de lancer un nouveau programme. Donc, nous avons des priorités élevées, moyennes et faible. Donc, là, ce qui compte, c'est le calendrier. Dans les 18 mois à la suite du rapport final, pour les priorités moyennes dans les 36 mois avant le rapport final et priorité basse, avant le nouveau groupe de travail ou équipe de révision, concurrence, confiance et choix du consommateur, donc avant la prochaine révision. Donc, vous pouvez voir un aperçu de ces recommandations et des différents domaines. Donc, ce que j'aimerais aborder tout d'abord, c'est la collecte des données. Nous voulions vraiment travailler avec beaucoup de données pour identifier les problèmes associés avec la concurrence, avec la confiance du consommateur. Donc nous avons fait un effort véritable de trouver les données qui existaient et d'avoir en supplément d'autres études. Il y a une étude des consommateurs effectuée par Nielsen au début du programme et un an après. Il y a eu des résultats dont on parlera un petit peu plus tard. Et il y a eu un groupe d'analystes qui a parlé des résultats de l'étude économique sur le marché des GTLD, les nouvelles chaînes qui sont utilisées, la perception du dossier de candidature, son évaluation. Il y a une commission qui a été effectuée, une enquête qui a été effectuée sur les pays du Sud. Pourquoi il y avait plus de dossiers de candidature provenant des pays moins avancés? Et les taux pour le parking de ces GTLD historiques et les sauvegardes également pour les nouveaux GTLD. Et nous avons également demandé une étude des abus du DNS. Donc, on a demandé à Nielsen également de demander plus d'informations sur les coûts du programme, et nous voulons incorporer ces résultats à notre rapport final également. Donc, on a toujours besoin de données supplémentaires sur ce concept du parking, parce que certaines personnes pensent que c'est négatif sur la tarification, les prix de gros, le marché de détail, le marché secondaire, au niveau mondial, au niveau régional. On a besoin de plus de données à ce sujet, une analyse de la concurrence, des comportements de substitution, de remplacement. Est-ce que l'on remplace un nouveau GTLD à la suite d'un ancien GTLD? Donc, les programmes ayant pour but de faciliter le dépôt des dossiers de demande, les sujets techniques, les plaintes, le travail du département de conformité de l'ICANN, les taux d'abus du DNS et d'utilisation frauduleuse du DNS avec les nouveaux GTLD. Donc, une recommandation centrale pour nous, c'est avoir plus de données et de meilleures données. C'est une recommandation très large que nous avons pour faciliter l'analyse quantitative du marché et de la mise en place des politiques. De toutes ces conséquences, nous recommanderons donc qu'une personne spécialiste des données travaille à l'ICANN. Désormais, cela, nous pensons, facilitera tous les groupes de travail et toutes les équipes de révision de ce type de programme à avoir des meilleures données plus solides. Y a-t-il des questions sur ce que je vous ai présenté? Sur ces problèmes et les recommandations? Vous pouvez lever la main sur Adobe Connect si vous avez une question. Il y a la possibilité d'avoir une traduction également. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Sinon, s'il n'y a pas de questions, nous allons poursuivre et parler toujours de la concurrence, de la confiance et du choix du consommateur. Et n'hésitez pas par la suite à poser des questions. Je vais maintenant passer la parole à Jordan Buchanan, qui faisait partie de l'équipe qui se concentrait sur la concurrence et le choix du consommateur. Merci, Jonathan. Donc, au début de notre travail, nous avons trois petites équipes se concentrant sur la concurrence et le choix du consommateur. Donc, je vais vous parler de cela. Je veux dire quelques mots de la méthodologie qui a été utilisée, donc je vais prendre un petit peu de recul. Comme l'a mentionné Jonathan, nous avons tenté au CCTRT de se baser sur des données. Notre équipe a travaillé beaucoup sur des données basées sur les résultats de l'étude économique qui a eu lieu et l'analyse des parts de marché, par exemple, des nouveaux GTLD, les autres indicateurs économiques, notamment pour la tarification. Nous avons analysé l'étude Nielsen qui a été faite avec les bureaux d'enregistrement et également avec les consommateurs, avec les gens qui utilisent l'Internet et qui utilisent ces noms de domaine, qui naviguent, qui surfent sur l'Internet. Donc, vous savez qu'il y a eu deux études Nielsen à un an d'intervalle, donc on a étudié ces deux études. Et ce qui est important de savoir lorsqu'on parle de concurrence, c'est la concurrence dans un marché précis. Par exemple, dans le contexte des nouveaux GTLD, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est simplement une concurrence par rapport aux GTLD historiques. D'autres pensent que les GTLD sont en concurrence peut-être avec les CCTLD, avec d'autres types de TLD. Par exemple, si on est très limité avec point NWC, NYC pour New York, on ne rentre pas en concurrence avec d'autres. Donc beaucoup de questions se posent. Qui est en concurrence avec qui et pourquoi? Donc la définition du marché est importante parce que les résultats vont être différents lorsque l'on regarde les indicateurs économiques. Et donc, étant donné qu'on n'est pas arrivé à une conclusion solide de la définition du marché, eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de documents sur l'économie, des analyses qui sont faites également par les organismes de régulation, par les opérateurs, et ils proposent également des définitions qui varient d'un GTLD à l'autre. Donc, on a pris plusieurs hypothèses sur à quoi ressemblent les marchés. Et la concurrence, par exemple, entre les CCTLD et les GTLD, donc calcul de part de marché, concentration sur le marché. Si vous n'êtes pas des économistes, moi je ne suis pas un économiste, mais lorsqu'on parle de concentration du marché, quelle part du marché est contrôlée par un petit nombre d'acteurs? Un exemple, s'il y a une ville qui a deux ou trois chaînes de hamburgers, et il y a une chaîne de hamburgers qui a 90% du marché, eh bien ça c'est très concentré, c'est un marché très concentré. Donc on a le même type d'analyse que l'on a effectué pour le marché des GTLD, quel est le niveau de concentration, une nouvelle fois basé sur différentes définitions. Donc lorsque l'on regarde à ces données, on voit des lignes de base qui se dégagent, puisque nous avons eu un temps qui s'est écoulé entre les différentes études. Là, nous sommes 2016, on va mettre à jour encore nos chiffres et nos analyses pour le rapport final. Donc ça, c'est un avertissement sur notre méthodologie. Qu'est-ce que nous avons trouvé au niveau de la concurrence? Eh bien, on a noté que les signaux étaient positifs en règle générale à la suite de l'analyse des parts de marché. Environ 50% de la croissance du nombre total des GTLD entre la fin 2013 et mars 2016 provient des nouveaux GTLD. Ça veut dire que à la fin 2013, et jusqu'à mars 2016. Si vous comptez le nombre total de GTLD, et vous voyez, l'accroissement est de 50%. 50% nouveaux GTLD, 50% pour des GTLD historiques. Donc, je crois que, par coïncidence, si vous regardez les nouveaux GTLD et les GTLD historiques, et CCTLD, ça c'est à peu près un tiers des noms de domaine. Donc, globalement, les GTLD représentent une catégorie de croissance comme les GTLD historiques ou les CCTLD. CCTLD, c'est un signal absolument intéressant. Et ensuite, nous avons regardé de manière plus technique l'analyse économique et nous avons vu des signaux une nouvelle fois positifs avec des instruments de mesure, avec l'index HHI, c'est ce qu'utilise le ministère de la Justice par exemple, pour la concentration du marché, sur le marché, et nous avons noté que 1000 points d'augmentation entre 2013 et mars 2016, cela dû à l'introduction des nouveaux GTLD. C'est significatif, 1000 points en index HHI, mais un avertissement, c'est les régulateurs gouvernementaux trouveraient ces chiffres intéressants parce que il y a en fait des acteurs très importants, il y a .com et .net, les TLD qui sont bien évidemment les plus courants et qui ont des marges significatives. Donc le marché GTLD a toujours été très concentré, mais c'était positif d'avoir de nouveaux GTLD.
Alors, une chose qu'on s'attend à voir en général, lorsqu'il y a un déclin de la concentration, c'est qu'on voit d'autres points positifs en matière de concurrence. En principe, on voit un déclin dans le prix. C'est la règle économique générale. Mais nous n'avons pas observé ceci dans ce cas. Et nous pensons qu'il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, nous n'avions pas les données nécessaires pour pouvoir observer ceci. Par exemple, et cela est d'autant plus important, là où nous avions, par le biais de groupes d'analyse, beaucoup de données sur le prix de gros, c'est-à-dire le prix demandé par les opérateurs au bureau d'enregistrement pour les nouveaux GTLD, en fait, on n'avait pas ces données pour les anciens GTLD. Et donc, il était difficile de faire cette comparaison entre les deux gros, surtout pour voir si l'introduction de nouveaux GTLD avait eu un impact sur le prix demandé pour les GTLD historiques. Mais même si on avait eu les données, en fait, peu importe, parce que pour la plupart, les GTLD historiques sont en fait bloqués par un plafonnement de prix imposé. Et donc, ce plafonnement des prix, ce prix maximum, en fait, veut dire que les prix sont inférieurs à la moyenne de ce que l'on voit pour les nouveaux GTLD. Et donc, il est tout à fait probable que même si on avait eu des données pour les GTLD historiques, en fait, étant donné ce prix maximum, du point de vue théorique, même si un GTLD historique était par exemple pour un maximum de 7$, si on voulait vraiment à la base demander 20$, étant donné la nouvelle concurrence, par exemple, s'ils étaient descendus à 15, peu importe finalement, parce qu'ils sont limités à 7$. Donc ce prix maximum, en fait, ne permet pas de voir quel a été l'impact sur la concurrence. Alors, autre point important, les nouveaux GTLD sont petits. Pratiquement tous les GTLD que nous avons pris en considération ont moins de 10 000 enregistrements. Et pour plus de 90%, ils ont moins de 50 000 enregistrements. Et donc, c'est bien inférieur aux GTLD historiques. Ainsi, il y en a un certain nombre qui sont petits et qui existent depuis un certain nombre d'années. Mais de fait, l'hypothèse que nous avons faite, c'est qu'il y aurait un certain nombre de résultats du fait de l'existence de ces petits ETLD. Premièrement, qu'il serait peut-être possible, en fait, d'avoir des opérations assez petites, donc en tant qu'opérateur de registre, étant donné que l'opérateur de registre peut, en fait, externaliser ses opérations à un fournisseur de secours et utiliser un réseau. Et donc, le fait qu'il y ait ces possibilités peut signifier qu'il sera possible pour ces TLD d'exister, en fait, sur une petite échelle. Mais bon, dans ce domaine, c'est quelque chose qui, quand même, est significatif et il faudrait faire davantage d'analyse là-dessus. Au-delà de la concurrence, le choix des consommateurs. Donc, nous avons remarqué que les nouveaux GLT donnent davantage de choix de la nature de la personne, un groupe consommateur. Les titulaires peuvent maintenant choisir entre beaucoup plus de GTLD, mais non seulement il y en a plus, mais ils représentent d'autres choses en matière de langue disponible, d'ensemble de caractères disponibles, d'identité géographique et de nouvelles catégories spécialisées. Donc, les titulaires de noms de domaine ont en fait davantage d'options et différents types également d'options. Par ailleurs, il y a des personnes qui naviguent vers ces noms de domaine et qui ont également plus d'options. Un nouveau domaine peut exprimer, par exemple, une certaine catégorie d'identification qui représente quelque chose d'intéressant pour les utilisateurs, mais nous allons en reparler tout à l'heure lors de la présentation, lorsque nous parlerons de la confiance du consommateur et d'autres sujets. Alors, autre thème dont nous avons parlé en matière de choix du consommateur, donc c'était la question de savoir si cela représentait vraiment un choix ou est-ce qu'il y avait en fait un peu mensonge entre guillemets parce que les enregistrements étaient à but défensif pour protéger une marque par exemple. Et donc il semblerait qu'il y a beaucoup de titulaires qui effectivement enregistrent soit de manière défensive, soit parce que pour une raison ou pour une autre, ils souhaitaient éviter que telle ou telle personne obtienne tel ou tel nom. Nous avons également trouvé qu'un certain nombre de titulaires s'enregistraient pour rejoindre d'autres catégories de consommateurs et pour élargir leur impact. Se faisait donc même si les titulaires auraient pu s'enregistrer dans un .com, même si cela coûtait plus cher. Donc, la notion générale comme quoi le potentiel d'enregistrement défensif et surtout la question de protection des marques de commerce, donc l'idée que cela représente un problème de coût, eh bien, d'une manière générale, nous avons eu des résultats positifs dans ce domaine, puisque sur les détenteurs de marques qui étaient enregistrés auprès de la TMCH et qui s'étaient déjà enregistrés dans au moins un GTLD d'historique, en fait, c'est pratiquement la moitié d'entre elles n'ont pas enregistré de nouveaux GTLD. Et pour ceux qui l'ont fait, la moyenne d'enregistrement était seulement de 3. Donc la plupart des titulaires de noms de domaine n'ont pas vu en fait un coût très important. Ou un coût très important dans le cadre de ce programme. Mais nous avons quand même vu un certain nombre qui enregistraient beaucoup de GTLD. Il y en a un qui a enregistré plus de 100 et un autre qui avait enregistré plus de 400. Donc, ce que nous recommandons dans le rapport, c'est de suivre le mécanisme trouver un mécanisme qui puisse en fait contribuer à mieux protéger en fait ceux qui ont le sentiment qu'ils doivent enregistrer plus de 100 fois. Alors, dans le domaine de choix des consommateurs, les politiques de registre. Donc, vous imaginez bien que la concurrence des opérateurs de registre, il faut donc avoir différentes politiques d'enregistrement pour attirer différents clients. Alors, ce que nous avons observé, c'est que il n'y avait pas de grosse variance, en fait, entre les anciens et les nouveaux. Mais si on considère les politiques d'enregistrement des nouveaux GTLD, ce que nous avons remarqué, c'est que il n'y avait pas énormément d'attention prêtée aux questions de protection des droits privés, des personnels, collectés par les registres. Et donc, pour la plupart, la revente des données personnelles, en fait, n'est pas protégée. Donc, c'est ce que nous avons recommandé dans notre rapport, donc de réglementer la diffusion des données personnelles par les opérateurs de registres. Donc voilà pour ce qui est du résumé de ce que nous avons constaté jusqu'à maintenant. Il y aura des mises à jour qui seront faites dans le rapport final qui sortira vers la fin de l'année. Je vous ai également dit que nous allons mettre à jour nos calculs récents sur la base des données récentes. Donc nous aurons en fait 9 mois de données lorsque nous publierons notre prochain rapport. Jonathan a également mentionné que nous allons considérer la question du parking et l'impact que cela peut avoir sur l'analyse économique. Et en particulier, nous essayons de voir tout d'abord si les taux de parking sont différents entre les nouveaux GTLD et les GTLD historiques. Et si c'est le cas, est-ce que cela peut avoir un impact sur les chiffres en matière de croissance des nouveaux GTLD? Est-ce que cette croissance est moins durable qu'on ne pourrait le penser? Donc nous allons adapter nos calculs en matière de part de marché, etc. Et en considérant donc ces taux, ces numéros pour le parking. Et enfin, nous allons mieux définir le marché. Jusqu'à maintenant, nous avons uniquement considérer l'approche internationale, mais il y a une étude qui a eu lieu dans le marché de l'Amérique latine qui incluait beaucoup de travail sur les données pour identifier certains enregistrements et certains pays. Donc, nous espérons pouvoir utiliser ces données pour faire une analyse plus localisée dans chaque pays pour analyser les comportements, la compétition, donc par exemple, comparer les nouveaux GTLD et les GTLD historiques dans certains pays et les variations de comportement. Voilà, donc je crois que j'ai terminé pour mon résumé de ce que nous avons découvert. Et donc, je suis prêt à écouter vos questions, si vous en avez, avant de passer au reste du rapport. Alors, je vois que John Cook vient de poser une question dans le chat. Et je vais la lire ainsi qu'y répondre. Alors, John Poole, comment est-ce que vous allez obtenir des données sur le prix de gros puisque le rapport devrait être effacé? Alors, deux choses par rapport à ça. Premièrement, nous ne sommes pas appuyés sur les données signalées à la CAN par les opérateurs de registre dans le cadre de notre annonce. Donc, nous avons collecté les données séparément et nous les avons obtenues des opérateurs de registre. Nous avons fait une analyse des prix séparée de la CAN, séparée de tout ceci. Comme vous l'imaginez, les opérateurs de registre considèrent que ces informations sont tout à fait sensibles. Donc, en matière de signalement des prix à la CAN, donc il y a séparation. Cela fait partie du nouveau contrat. En fait, il n'y a pas eu de changement. Donc, le rapport économique à l'avenir continuera de permettre
faite dans cette étude. Alors, deuxièmement, actuellement, les nouveaux GTLD ne sont pas obligés de signaler leur prix initial, mais seulement les changements. Donc, ceci sera utile pour cette analyse. Et donc, je crois qu'à l'avenir, nous continuerons de nous appuyer sur cette coopération. Ce que nous savons, c'est qu'il pourra être important d'obliger la CAN à exiger des exigences similaires pour collecter des données des personnes.
Donc, est-ce que nous avons d'autres questions? Bien, je ne vois pas d'autres questions, donc nous allons maintenant passer au point suivant sur les sauvegardes et la confiance du consommateur. Je vais donner la parole à Lorraine Capin. Oui, merci Jordan, j'espère que vous m'entendez bien. Dites-le moi si vous avez un problème de son. Avec mes collègues de l'équipe de révision, nous sommes concentrés sur la confiance du consommateur et les protections et sauvegardes. Voilà ce que nous avons trouvé et ce que nous avons comme recommandation. Mais je crois que c'est important que vous lisiez rapport final pour bien mettre en contexte toutes ces questions. Donc, plusieurs de mes collègues interviendront également. Drew Bagley et David Callum. Donc, je vais commencer par vous parler un petit peu de deux points séparés, la confiance du consommateur et les sauvegardes. Je reviendrai sur la confiance du consommateur, mais vraiment, aperçu général, avec l'expansion significative du programme des GTLD, on ne voit pas un impact fort sur la confiance du consommateur. Nous avons analysé ces études et nous avons noté que la confiance dans le DNS n'a pas diminué. Lorsque l'on a creusé un petit peu, en général, ce que pensent les consommateurs des GTLD, s'ils sont familiarisés avec les différentes protections, avec le fonctionnement de ces TLD, eh bien, nous avons noté qu'il y a un besoin d'informations supplémentaires pour bien comprendre pourquoi les consommateurs font confiance au nouveau GTLD. Le nouveau programme des GTLD a lancé beaucoup de sauvegardes, notamment contractuelles. Ce sont des protections et des sauvegardes qui n'existaient pas auparavant, et ça, c'est une amélioration. Parce que beaucoup de ces sauvegardes étaient là pour limiter les utilisations malveillantes du DNS, et nous avons noté que plus d'informations sont absolument nécessaires pour bien comprendre l'impact des sauvegardes sur le public, le but c'était de protéger le public, et sur les entités comme les forces de l'ordre, les entités qui font en sorte que ces sauvegardes soient appliquées. Donc on a vraiment besoin de collecter des données en ce qui concerne les utilisations malveillantes et les abus du DNS, et également de prendre en compte les plaintes que reçoit l'ICANN. Cela permettra de fournir plus de transparence sur le résultat de ces plaintes. Maintenant, je vais me concentrer sur la confiance du consommateur. Et le groupe Nielsen a donc fait cette analyse. Il y a eu deux enquêtes qui ont été faites sur l'utilisation du consommateur final et une autre étude sur les bureaux d'enregistrement. Donc, qu'est-ce que l'on a noté? Il y a deux études qui ont été effectuées, donc séparées sur deux différents segments de la population. Ce qui a été noté est qu'il y a deux principaux facteurs qui sont pertinents par rapport à la confiance envers les GTD-LD, la familiarité et la réputation donc de ce GTD-LD et les mesures de sécurité pour protéger les informations sensibles. Donc ce que l'on a trouvé également, grâce à Nielsen, les niveaux de confiance. Nielsen s'est penché là-dessus par rapport au GTLD historique. Eh bien, les nouveaux GTLD, jusqu'à présent, sont seulement à un niveau de confiance de 50% par rapport aux anciens GTLD. Donc ce sont des études de 2016 et la situation peut encore avoir évolué. Mais le fait est que les nouveaux GTLD, on en fait moins confiance. Deuxièmement, il y a un point de corrélation entre les restrictions par rapport aux enregistrements et la confiance des consommateurs. S'il y a beaucoup de restrictions sur l'enregistrement, on va avoir plus de confiance de la part des consommateurs. Et même avec plus de 1000 nouveaux GTLD, eh bien, la confiance qu'on a envers le DNS n'a pas été diminuée. Donc, voilà nos recommandations en ce qui concerne la confiance du consommateur. Vous l'avez déjà entendu beaucoup de notre part. Nous recommandons plus d'études dans ce domaine et nous pensons qu'il serait particulièrement utile de savoir quels sont les nouveaux GTLD les plus visités et pourquoi et comment le comportement des utilisateurs est en rapport avec la confiance. C'est vraiment demander au public quels sont les GTLD qui vous font vous mettre le plus en confiance. Les anciens GTLD, les nouveaux GTLD, ça, ce serait des études très utiles selon nous pour mieux comprendre le comportement et les comportements des utilisateurs. Qu'est-ce que vous utilisez comme GTLD pour communiquer? Pour quel usage faites-vous de ces GTLD? Donc, autre recommandation, à la suite de l'étude Nielsen, les consommateurs, le public, espèrent avoir une relation avec le contenu. Il y a une relation entre le nom et le contenu. Donc, point photo, ça va bien être quelque chose qui a trait à la photographie. Et ça va pas être sur l'atmosphère ou quoi que ce soit. Donc, si un GTLD a un nom qui a un message de confiance, par exemple, point compta, point accountant en anglais, eh bien, il doit y avoir absolument des mesures de prise par le registre pour répondre aux attentes par rapport à la confiance et pour les consommateurs. Le public s'inquiète beaucoup de la sécurité des informations sensibles, notamment sur la santé et des informations financières. Donc, je crois qu'il faut créer des motivations pour encourager les opérateurs de GTLD à répondre aux attentes, ces attentes des utilisateurs. La recommandation 15, ce sera de poursuivre ces études et de les améliorer. Et d'avoir donc des points de comparaison, des lignes de base, pour continuer plus avant ces enquêtes et ces analyses. Donc je serai maintenant en mesure de répondre à vos questions si vous en avez. Donc, je vais voir si certaines personnes ont levé la main ou s'ils interviennent dans le chat en bas à droite de l'écran Adobe Connect. Donc, en ce qui concerne les problèmes de compétition, je ne vois pas de questions et je vais donc passer la parole à mon collègue Drew Bagley qui va nous parler des utilisations malveillantes ou frauduleuses du DNS, système de nom de domaine. Merci de votre attention. Eh bien, ce qu'on a décidé de faire également, c'est d'examiner les problèmes d'utilisation frauduleuse du DNS et l'efficacité des protections et sauvegardes mises en place pour limiter ces problèmes à la suite de l'expansion de l'espace. Donc nous avons une méthodologie pour analyser ces problèmes. On n'a pas totalement terminé notre travail parce qu'on attend plus de données. Nous avons pris en compte toutes les sauvegardes qui existent dans le nouveau programme des GTLD et déterminé si elles avaient été bien mises en place. On a utilisé toutes les statistiques qui étaient disponibles concernant les plaintes, notamment. Et l'aspect principal de notre approche, c'est d'avoir une étude très complète des abus du DNS pour produire donc des statistiques, pour avoir un point de comparaison et faire une comparaison entre les GTLD historiques et les nouveaux GTLD, et essayer d'analyser également l'efficacité des sauvegardes de la part des bureaux d'enregistrement pour essayer de voir les cas où il y a des enregistrements frauduleux, malveillants, problèmes d'enregistrement. Donc, on a demandé à deux prestataires de services, Tiudalt et un autre prestataire de services. Vous vous rappelez, à Copenhagen, nous avons parlé de cela, et nous pouvons donner plus d'informations au sujet de ces études, mais notre analyse préliminaire de nos résultats, nous sommes arrivés au fait qu'il y a vraiment une bonne conformité très large avec la mise en œuvre des nouvelles sauvegardes pour les nouveaux GTLD. Donc ça, c'est très technique. C'est l'utilisation de wildcard et d'autres marqueurs. Donc, en général et principalement, on a utilisé ces aspects techniques pour véritablement faire en sorte qu'il y ait moins d'abus du DNS. Il y a une analyse de APWG, ce groupe de travail, qui nous montre donc quelques points, mais on n'a pas d'analyse complète et on en aurait besoin. On aurait besoin d'une analyse des abus des GTLD historiques et de comparaison avec les nouveaux GTLD. Ça nous serait très utile pour retrouver les corrélations entre les sauvegardes, la mise en œuvre des sauvegardes, les abus du DNS. Est-ce qu'il y a moins d'abus du DNS avec les nouveaux GTLD ? On pourra peut-être conclure cela si on avait plus de données et plus d'études plus complètes. On a besoin de plus de pourcentages et de statistiques. Ça, c'est les bureaux d'enregistrement qui travaillent avec les registres et les données existent, mais on n'a pas toujours eu accès à ces données. La communauté joue un rôle important également pour faire remonter les problèmes et les abus provenant de certains prestataires de services. Donc, notre analyse a été limitée. On a donc utilisé, pour avoir un point de comparaison, une ligne de base, cette analyse des abus du DNS, et cela nous permettra de déterminer à l'avenir de meilleures politiques, une meilleure compréhension de cette utilisation malveillante du DNS. Est-ce qu'on est en progrès avec le nouveau GTLD, et ainsi de suite. Cela nous permettra donc de créer de nouvelles politiques pour les GTLD, pour les différentes zones. Donc voilà ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce point. Donc je ne vois pas de questions. Donc je vais passer à... Je vois quelqu'un qui tape.
Donc je vais répondre à toutes les questions sur les utilisations malveillantes du DNS. S'il y en a pas, je peux toujours faire ça donc après. Merci, Joe. Donc nous passons à la question des sauvegardes maintenant, de manière plus précise. Alors, notre méthodologie qui concerne les sauvegardes est la suivante. Déjà de considérer les buts pour la sauvegarde, comment est-ce que la sauvegarde est en place et mise en application et les problèmes. La plupart des sauvegardes ont été mises en application de manière contractuelle par les différents contrats, opérateurs de bureaux d'enregistrement entre les deux également, bureaux d'enregistrement à titulaire de nom de domaine. Et donc, dans le cadre de notre discussion, nous allons nous focaliser surtout sur les sauvegardes concernant le WHOIS et les sauvegardes concernant les chaînes sensibles, réglementées et très réglementées. Mais il y a beaucoup de sauvegardes qui, en fait, méritent une autre discussion. Et je vous recommande donc de considérer le rapport. Je vous encourage également à nous donner notre point de vue et à nous faire vos commentaires. Alors, considérons d'abord le WHOIS. Donc, l'objectif des sauvegardes concernant le WHOIS, c'est vraiment d'améliorer la prévention des utilisations malveillantes et donc l'augmentation des efforts d'atténuation. Et donc, ce que nous avons constaté, c'est que les plaintes relatives au WHOIS étaient en fait une catégorie assez large de plaintes parmi celles reçues au bureau d'enregistrement. Il y a eu également un rapport fait sur l'ARS sur trois phases. Premièrement, l'exactitude de la syntaxe. Donc, est-ce que les informations du WHOIS sont dans la bonne forme? Est-ce qu'elles sont exactes? Et également, validation de l'identité. Est-ce que la bonne personne est identifiée? Est-ce qu'elle correspond bien au domaine? Par rapport au WHOIS, il y a certaines recommandations qui ont été avancées. Premièrement, il serait utile pour la conformité d'identifier le sujet des plaintes relatives au WHOIS. Parce que pour l'instant, on ne sait pas quelle est la catégorie. Est-ce que c'est une question de syntaxe, d'opérabilité, d'identité ou autre. Et il serait donc utile d'avoir ces informations pour savoir si on peut traiter de ce problème de manière efficace. Par ailleurs, il faut bien prendre en considération le fait de savoir si oui ou non on doit passer à l'identité dans le cadre de l'ARS. Alors, nous passons maintenant aux chaînes sensible et réglementée. L'objectif était en fait d'atténuer les risques associés avec les chaînes liées au secteur professionnel ou réglementé, donc par exemple le domaine caritatif ou le domaine financier, le domaine médical, les pharmacies, etc. Donc, ce dont on se rend compte ici, dans le cadre de cette sauvegarde, c'est qu'il y a des sauvegardes qui s'appliquent à différentes lois, suivant les lois qui régissent tel ou tel domaine, que ce soit le droit de la vie privée, la collecte des données, la protection des consommateurs, les questions financières. Et également, il y avait une sauvegarde relative à la manipulation des informations sensibles, donc par exemple les données financières ou de santé. Donc il faut mettre en place des mesures de sécurité appropriées et raisonnables. Et donc, ceci en fait est lié aux observations faites par l'étude Nielsen, parce que les questions de sécurité sont vraiment très importantes pour le public dans le cadre des activités en ligne. Donc, une de nos recommandations, c'est d'inclure des informations plus détaillées sur le sujet des plaintes dans les rapports sur la conformité de la CAN. En fait, la conformité de la CAN collecte énormément d'informations, ce qui est très bien. Je pense qu'il serait plus efficace de divulguer des données plus granulaires quant au sujet de ces plaintes et à la manière dont elles sont traitées. Par exemple, pour ce qui est des chaînes donc réglementées et sensibles, il faudrait en fait savoir s'il y a une loi spécifique qui a été enfreinte. Et puis, il serait bon de savoir si cela pose un problème de protection des données personnelles, surtout s'il s'agit, par exemple, de données financières. Alors, pour ce qui est des chaînes très réglementées, l'objectif, là, c'était vraiment d'atténuer les niveaux très élevés d'utilisation malveillante dans des secteurs très réglementés, très sensibles. Donc, les pharmacies, les banques, le jeu, tout ce qui est du domaine du jeu, etc. Et donc là, les choses ne sont pas très claires. Il n'est pas clair de savoir comment est-ce que les parties contractantes sont conformes aux sauvegardes par rapport à ces chaînes très réglementées. Nous savons qu'il y a conformité parce que les sauvegardes écrites font partie du contrat. La CAN surveille ceci et le fait très bien. Il y a une excellente conformité dans ce domaine. Mais ce que nous ne savons pas, c'est si ces sauvegardes sont conformes dans le monde réel. Par exemple, il y a une sauvegarde qui oblige les GTLD très réglementés, donc les titulaires, à avoir certaines références. Ils doivent en fait vraiment déclarer qui ils sont et le prouver. Donc, par exemple, s'il s'agit d'une organisation caritative, eh bien, ils doivent le prouver. Par contre, nous ne savons pas si, par exemple, quelqu'un dit « Oui, je suis une organisation caritative, j'ai toutes les références nécessaires, tous les justificatifs », mais en fait, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui souhaite agir de manière frauduleuse, de manière malveillante. Nous ne savons pas dans le monde réel comment est-ce que cette sauvegarde est mise en place. Donc, il nous faut absolument trouver des moyens de solutionner ce problème. La recommandation 28 souhaite qu'il y ait en fait une audite des bureaux d'enregistrement et de revendeurs. Nous avons également des recommandations concernant des informations plus détaillées, encore une fois, de la conformité de la CAN quant au volume et au sujet des plaintes pour ces chaînes très réglementées. Et puis enfin, il nous semble qu'il serait utile de comparer les taux d'abus entre les GTLD très réglementés au-delà, qui vont en fait au-delà des sauvegardes obligatoires et qui mettent en place d'autres mesures. Donc comparer ceux qui ont des protections supérieures à ce qui est obligatoire et ceux qui ne le font pas. Donc voilà un exemple de notre approche en matière de recommandations sur les sauvegardes. Alors je fais une petite pause maintenant pour savoir si vous avez des questions. Je vais en fait regarder dans le chat pour voir si je n'ai pas raté de questions. « Donc, Cathy a posé une question sur l'exactitude, la phase d'exactitude. Alors, en fait, ce type d'information, c'est le site de la CAN qui détaille vraiment la phase d'ARS. Mais à la base, il y avait une phase 3 qui considérait l'exactitude de l'identité des données du WHOIS. Il y a d'autres études qui considèrent l'exactitude de la syntaxe et de l'opérabilité. Et donc là, c'est surtout les informations relatives à l'identité qui ont été fournies et de savoir si elles sont exactes ou pas. C'est un petit peu comme ça que je décrirais ceci de manière simple. Mais la meilleure source d'information, à mon avis, est le site web de l'ICANN, sur lequel il y a une page entière sur le système de signalement des problèmes d'exactitude du WHOIS. Donc, dans la phase 3, il n'y a pas énormément d'informations, en fait. Alors, j'espère que cela répond à votre question. Et on peut en parler davantage s'il y a davantage de questions là-dessus. Mais il faudra sans doute que je me mette en lien avec le personnel de l'ICANN qui s'occupe de ce projet de manière à ne pas vous dire des choses qui ne sont pas exactes. En tout cas, merci Marie. Marie nous a donné le site dont je parlais dans le chat. Alors, je ne vois pas d'autres mains levées. Je ne vois pas d'autres questions non plus. Donc, je vais repasser la parole à mon collègue Drew, qui va parler des engagements d'intérêt public. Drew au micro. Merci, Lauren. Alors, par rapport avec toutes les sauvegardes qui ont été mises en place dans le nouveau programme des nouveaux GTLD, nous avons également considéré les engagements d'intérêt public volontaires. Ceci permettait aux titulaires de noms de domaine d'inclure dans leur candidature des dispositions contraignantes qui seraient mises en place dans le cas où ils obtiendraient le registre. Et donc cet engagement est devenu obligatoire dans le cadre de l'accord ou du contrat de registre. Donc, lorsque nous avons considéré ces engagements d'intérêt public, et la manière dont il fonctionnait, nous avons pu analyser ces pics volontaires et les diviser en différentes catégories. Donc, déjà, ceux qui étaient liés avec des nouveaux GTLD très réglementés, et puis également les nouveaux GTLD les plus plébiscités. Donc, selon ce que nous avons vu, il y a d'énormes différences. Étant donné la nature de ces pics volontaires, pour certains, ils ressemblaient un petit peu à ce qui, par la suite, allait devenir obligatoire pour tout le monde. Donc, c'est un petit peu comme les mécanismes de protection des droits, alors que pour d'autres, ils étaient vraiment uniques. Et les opérateurs avait vraiment une politique très unique de lutte contre la malveillance. Certains ont donc vraiment créé de nouveaux mécanismes pour protéger les droits de la propriété intellectuelle. Mais donc les pics volontaires, donc en fait, ils n'ont eu que peu de temps pour définir leur cycle, donc voilà pourquoi il y a d'énormes différences. Et ces obligations volontaires, c'est quelque chose de nouveau en tout cas. Mais ce que nous avons remarqué, c'est qu'il est difficile déjà pour la communauté d'analyser ces pics volontaires, parce que ces pics volontaires existent uniquement dans le cadre de l'accord de registre, dans une base de données qui est autonome, et parce des mécanismes qui existent qui permettent de mesurer si oui ou non ces pics volontaires font ce qu'ils sont censés faire, sont efficaces, ou alors si c'est simplement un écran de fumée, nous ne savons pas vraiment s'ils sont dans l'intérêt public ou pas. Et donc, nous avons la recommandation suivante, la CAN doit améliorer l'accessibilité des engagements de santé publique volontaire en extrayant ces pics des contrats de registre et en les introduisant dans une base de données publique. Nous pensons que ces pics, à l'avenir, s'il y a de nouveaux GTLD qui les appliquent, nous pensons qu'il faut que les titulaires, les candidats, déterminent l'objectif de leur pic volontaire, de manière à ce que nous sachions ce qui est visé. Et enfin, nous croyons que les pics volontaires doivent être soumis à temps pour que la communauté ait le temps de les revoir. Nous pensons que ceci représentera une sauvegarde en matière d'intérêt public. Il pourrait y avoir révision par le CAC et ceci sera dans l'intérêt de toute la communauté.
Très bien. Donc, ceci dit, y a-t-il des questions à ce sujet ? Donc, c'est une analyse préliminaire, je vous le rappelle. Et il faut qu'on continue à creuser et à analyser cette question. Donc, il faut également analyser les données sur les utilisations malveillantes du DNS et les différents abus. D'accord, très bien. Donc, je ne vois pas de questions. Donc, je vais passer la parole à David Taylor. Il n'était pas là ce matin, mais il est avec nous maintenant. Il veut nous parler des mécanismes de protection des droits. Donc, les enregistrements, c'est un des aspects qu'on avait analysé. On a vu que il y a beaucoup de TLD, 4% des opérateurs donc ont des marques de commerce et il y a des mécanismes de protection qui existent, mécanismes de protection des droits, et c'est de cela dont on va parler maintenant. Voilà. Donc, une nouvelle fois, on a besoin de plus de données pour voir l'efficacité du nouveau programme des GTLD. Donc, on a pris en compte les chiffres de l'ICANN entre 2012 et 2015, qui seront mis à jour pour inclure 2016. On a vu les chiffres de l'Organisation mondiale de propriété intellectuelle, WIPO, statistiques 2015, et le rapport Nielsen sur l'impact de l'Association internationale des marques de commerce, dû au 3 avril 2017. Donc, passons au transparent suivant. Donc, on a de plus en plus de cas qui sont enregistrés d'une année sur une autre. En ce qui concerne le système uniforme de suspension rapide, Oui, je m'appelle Caleb et je ne sais pas si on pouvait en parler aujourd'hui, mais en tout cas, j'avais une question. Donc, c'est une Lexus R300. Oui, excusez-moi. Oui, je crois que ce n'était pas ce n'était pas quelque chose qui avait trait à notre sujet. Donc ce que je voulais dire, c'est que on passe au deuxième niveau des GTLD, et cela n'est pas surprenant. Nous avons vu que en 2015, le niveau GTLD représentait 6,5% des enregistrements totaux des GTLD. Et les litiges représentaient 10% des cas. Donc c'est une conclusion. Il semble qu'il y a peut-être un petit peu plus d'atteinte aux droits de marque, aux marques déposées, avec le nouveau système de GTLD. Mais c'est encore trop tôt pour véritablement statuer à ce sujet en ce qui concerne politique de règlement uniforme de litige en matière de nom de domaine. Donc nos recommandations préliminaires, nous attendons plus de données pour notre rapport final. Notre recommandation 42, étudier l'impact des nouveaux GTLD sur l'effort requis pour protéger les marques de commerce et répéter donc cette analyse, cette étude dans les 18 mois à la suite du rapport final CCTRT. Et nous avons des recommandations sur le centre d'échange d'informations sur les marques. Et les recommandations 43 et 44, il y a des groupes de travail qui se penchent là-dessus, des groupes de travail de développement de politique pour les mécanismes de protection des droits. Donc, avez-vous des questions au sujet de ces questions sur le système uniforme de suspension rapide, sur l'interopérabilité de l'UDRP? Donc, je vois Phil Corwin qui pose une question sur l'augmentation de 17%. Oui, c'est 17%, ça, c'est différentes sources sur différentes années. Donc, je crois qu'il y a une année où il y a eu une augmentation de 17% sur les UDRP. Ça, on pourra en parler plus dans notre groupe de travail PDP. Cathy Kleiman, vous avez une question. Quelles sont les attentes d'un nouveau rapport cette semaine, l'impact de ce nouveau rapport sur votre équipe de révision? Eh bien oui, absolument, nous attendons tous les rapports, toutes les études qui sont effectuées, et de la part, notamment par la NTIA, et nous prendrons cela en compte pour notre rapport final. Donc, comment un commentaire sur des recommandations qui n'existent pas encore. Oui, très bon point. Donc, nous allons voir si ces recommandations seront dans le rapport final. Ce n'est pas une obligation. Donc, voilà. Très bien. Donc, nous allons maintenant parler du processus d'évaluation et donner la parole à un collègue. Oui, merci Cathy, c'était une bonne question. Et vous pouvez toujours commenter, vous pouvez toujours nous envoyer des courriels, utiliser donc l'adresse email, communiquer avec nous. Nous sommes en phase de commentaires publics et nous apprécions beaucoup les commentaires que nous recevrons. Le rapport n'est pas encore finalisé et nous continuons à y travailler, à le peaufiner et à prendre en compte ces commentaires, à les incorporer dans notre réflexion. Donc Jonathan, vous êtes au micro, dernière partie de notre webinaire et de notre analyse de processus d'évaluation et de mise en œuvre. Il y a un nouveau PDP sur les procédures à venir, subséquentes, qui avance. En prenant en compte les nouveaux GTLD et on a essayé de voir ce qui n'était pas efficace dans le processus d'évaluation des dossiers de candidature notamment, et voir lorsqu'il y avait des problèmes d'inégalité. Et est-ce que tout le monde est sur un pied d'égalité en ce qui concerne les pays du Sud? Très peu de dossiers de candidature sont arrivés des pays moins avancés, se trouvant principalement dans le Sud, dans ces régions en développement, qui n'ont pas envoyé beaucoup de dossiers de candidature de GTLD. Il faut revoir cela à l'avenir. Il y a une analyse faite par Nielsen des personnes ayant déposé des dossiers de demande, des entités l'ayant fait. Il y a une étude de M Global sur les cohortes, sur les différents groupes, sur des groupes similaires. Sur les rapports entre les nouveaux GTLD et les pays du Sud. Donc, nous avons analysé toutes ces données collectées par le personnel également, des rapports du personnel qui proviennent du personnel. Et ce qui est nécessaire, selon nous, pour la communauté, c'est de développer des objectifs et de les bien déterminer. Pour voir les dossiers de demande qui arrivent des pays du Sud, pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité, nous avons quelques recommandations, mais selon nous, la communauté doit prendre des décisions, peut-être avoir plus de dossiers de candidature, faire plus de sensibilisation, parce qu'on n'a pas communiqué avec assez de personnes, ni assez tôt. Donc, des recommandations pour une participation accrue au niveau des conférences, pour utiliser les médias traditionnels, pour faire de la sensibilisation, pour parler avec les leaders d'opinion et chefs de file. On a parlé à ces entités. M-Global a vu qu'il fallait mieux définir les modèles commerciaux qui existaient dans ces pays du Sud, avoir des études de cas qui n'existaient pas assez. Je crois maintenant que il n'y a pas encore assez d'études de cas et de cas montrant que le succès a été atteint en provenance des pays du Sud. Donc on peut faire plus en termes de sensibilisation et de prise de contact, et plus tôt également, il y avait un soutien financier ou non financier qui existait. Il faut revoir un petit peu cela, on ne l'a pas beaucoup utilisé lors de la dernière série de GTLD, donc nous recommanderions de revoir un petit peu cette aide qui était possible pour les personnes ayant déposé des dossiers ou voulant déposer des dossiers de nouveaux GTLD. Ça pourrait être un système de mentorat, par exemple, qui pourrait être très utile. On a vu avec Nielsen que ceux qui avaient déposé des dossiers de demande ont utilisé des consultants externes pour remplir leur dossier de demande, qui était extrêmement complexe. Il était nécessaire pour eux d'avoir des consultants. Donc, il y avait des mentors bénévoles, et ça, c'est quelque chose qu'il faut développer. Cet aspect mentorat. Mais il y avait simplement une liste de personnes, et en fait, ces mentors bénévoles n'ont pas été sollicités. Donc je crois que l'ICANN, avec son personnel, doit faire plus pour véritablement revoir ce programme d'assistance. Donc il faut réanalyser cette situation. Qu'est-ce que nous avons noté également en ce qui concerne les problèmes d'évaluation et les dossiers de demande? Des avertissements assez tôt sont utiles pour que les personnes puissent réagir lorsqu'il y a un problème dans un dossier de candidature, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui était en jeu également, et on ne veut pas que les personnes perdent leur droit d'inscription parce qu'il y a un problème avec les dossiers. Il faut que le GAC soit en mesure de participer également, il faut être en mesure de donner des conseils très clairs le plus tôt possible. Il faut revoir les procédures et les objectifs pour les applications provenant des communautés. Une nouvelle fois, il y a eu seulement quelques dossiers provenant de communautés, basés sur des communautés, et on aimerait en voir plus. Et c'est quelque chose d'important, que des communautés puissent déposer des demandes de GTLD. Il faut que ça soit plus juste, plus équitable à ce niveau. Il doit y avoir une plus grande cohérence dans les procédures de résolution de conflits. On a eu différents résultats pour différentes questions et problèmes qui s'étaient posés. Donc, je crois qu'on doit retravailler à ce niveau. Au niveau du processus de résolution des litiges, il faut revoir un petit peu cela. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur l'évaluation, sur le rapport, sur ce qui vient d'être dit.
Alors, en ce qui concerne les étapes suivantes, nous avons donc un rapport préliminaire qui a été publié en mars, qui est maintenant pour commentaire public, soumis à commentaire public. Nous aurons une réunion en face-à-face avant la réunion de Johannesburg de juin, au cours de laquelle nous passerons en revue le rapport sur l'utilisation malveillante du DNS, les questions de données de parking. Donc l'idée, c'est de voir comment mettre l'accent sur les recommandations nécessaires. Il y a des conversations qui ont lieu par chat. Et donc nous verrons si oui ou non il faut changer nos recommandations, mais donc il nous faudra sans doute analyser ceci pendant une certaine période. Et donc s'il n'y a pas de changement majeur, donc nous pensons pouvoir donner notre rapport définitif au Conseil au mois de juillet. Donc merci d'avoir écouté ce que nous avions à vous dire. Vous pouvez nous envoyer des commentaires ou des questions à l'email que vous avez à l'écran. Toutes les informations sont disponibles sur notre wiki. Si vous représentez un groupe spécifique et que vous voulez avoir un appel de conférence avec nous pour en parler davantage, n'hésitez pas, parce que de toute façon, nous avons besoin de vos commentaires et de votre feedback. Donc n'hésitez pas si vous avez des choses à nous dire. S'il y a des questions tout de suite, n'hésitez pas. Jordine, Laurine, pardon, Drew, David, est-ce que vous avez des choses à ajouter avant que nous ne concluions notre webinaire? Très bien. Eh bien, je vous remercie à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous parmi en choisissant un des moyens disponibles, et nous attendons avec impatience de recevoir vos commentaires. Merci.